à rien. Rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait comme à la...
Bonsoir. Bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, en femme, Radio Zone.
Il y a la petite Madeleine qui est avec nous.
Voilà, aujourd'hui, nouvelle animatrice sur nos ondes, la Madeleine. Vous l'entendez? Attendez, je vais vous la faire parler. Ouais, on est bien, hein, la Madeleine. Bon, alors, donc, je suis en Madeleine, je vais venir m'amener une tour. Voilà, bien. Oh, bon, allez, on y va. Alors, c'est la Madeleine qui a fait ça. Bon, enfin, soyons sérieux, quoi, quand même. Bon, alors, d'ailleurs, personne ne nous téléphone, c'est dégueulasse, voilà. Bon, alors, je vous rappelle notre numéro de téléphone. C'est le 50 40 51 41. Non, c'était tout faux. Si, c'était juste. Je répète, 50 40 51 41 023 depuis Genève. Alors, dépêchez-vous, parce que sinon, ben, on met plus rien. On fait plus rien, c'est le silence.
Ça, c'est la provocation de la Madeleine.
Bon, allez, on est parti dans quelques instants. Nous, nouvelles. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. En Inde, la police poursuit des féministes manifestant pour dénoncer la mort d'une femme brûlée vive par son mari. Vaida est morte à Bombay, brûlée au kérosène, comme tant d'autres femmes en Inde, tuées par leur mari pour des histoires de dot la plupart du temps. Le mari et sa mère prétendent au suicide, thèse que suit allègrement la police. Pour le frère de la victime, soutenu par les féministes, il ne fait pas de doute que le mari, le docteur Kondakri, a assassiné sa femme pour pouvoir épouser une jeune européenne. Plusieurs indices prouvent en effet que Vaida était morte avant qu'on lui mette le feu. Une marche de protestation a été organisée par 23 groupes de femmes qui appellent au boycott social du docteur Kondakri, qui au passage de la manifestation s'est fait peindre la figure en noir. Du coup, la police s'est réveillée, 4 femmes participantes à la marche sont en prison et le docteur Kondakri doit fournir une liste des autres femmes arrêtées. Cette manière très particulière de mener une enquête a fait tiquer la presse nationale. Quant au commissaire de police, il campe sur ses positions. L'assassin court en liberté, les manifestantes sont en prison, tout va très bien. Japon, une employée s'est fait saquer, c'est le cas de le dire. Une employée japonaise travaillant dans une fabrique de machines à coudre vient d'être licenciée pour avoir refusé de boire une coupe de saké, l'alcool de riz, lors de la fête de fin d'année du syndicat de la maison. La direction de la firme a renvoyé l'employée dès son exclusion du syndicat en vertu des accords sociaux internes interdisant à la firme de faire travailler une personne non adhérente du syndicat. Cette femme de 50 ans, depuis 10 ans dans l'entreprise, avait refusé la coupe de saké en raison d'un état grippal. Mais pour le responsable du syndicat, je cite, « Avec son attitude rebelle, elle a mis en danger la solidarité de tout le syndicat. » L'employée, elle, a porté plainte contre le syndicat. L'Arabie saoudite punit ses intégristes. Surprenante retombée de la guerre du Golfe, la très musulmane Arabie saoudite, qui passait pour le premier financier des mouvements islamistes, comme le fils en Algérie, se retrouve aux prises avec ses propres intégristes. Le pouvoir vient d'adresser un coup de semonce aux milieux religieux les plus radicaux en procédant à l'arrestation d'une vingtaine d'oulémas accusés de porter atteinte, je cite, à la stabilité de la société. Les oulémas religieux arrêtés sont opposés à toute concession susceptible de remettre en cause l'application scrupuleuse de la charia, la loi islamique sur la famille. Et ils soutiennent en plus les thèses défendues par le fils algérien et les intégristes iraniens. Autre mesure de rétorsion très exceptionnelle, l'annonce mercredi de l'arrestation d'un imam et de sa condamnation à Riyad à 80 coups de fouet pour calomnie envers une association de femmes saoudiennes. L'imam avait déclaré publiquement que l'islam ne pouvait tolérer l'accès des femmes à des postes de responsabilité publique, un crime qui en d'autres temps n'aurait sans doute jamais été dénoncé. En France, la grande distribution, les grands magasins envisagent une refonte des postes de travail et une qualification du personnel sans formation. Pour les caissières, c'est peut-être le compte à rebours. La caissière de supermarché est une espèce en voie de disparition. La grande distribution pourrait bien condamner à terme ce qui fut sa création, la ligne de plusieurs dizaines de caisses. La fin des caissières ne fait qu'anticiper de manière expéditive et futuriste la révolution qui s'opère déjà en profondeur dans la grande distribution. Pendant longtemps, celle-ci s'est cantonnée à assurer une fonction commerciale pauvre. On déchargeait le camion, on mettait en rayon et le consommateur se servait. Aujourd'hui, on tend à mettre davantage en avant la notion de service à la clientèle. Dans ce contexte, les métiers de la distribution vont forcément se qualifier. On devra donc revoir la grille des salaires. La distribution va revaloriser certaines fonctions comme traiteur, poissonnier, textile, photo et en automatiser d'autres. Ce sera le cas de la ligne des caisses qu'on peut difficilement valoriser. C'est pour cela que les caissières sont appelées à disparaître. Mais si la remarque, pour visionnaire qu'elle soit, vise le très long terme, il n'en demeure pas moins que toutes les directions de la grande distribution s'interrogent sur l'avenir de leur personnel peu qualifié. Si on ne le fait pas, si on ne fait pas cette réflexion, on risque de voir s'instaurer au sein même de l'entreprise une société à deux vitesses, avec des employés qualifiés de plus en plus nombreux, faciles à motiver par un projet d'entreprise, et d'autres comme les caissières, qui seront toujours nombreuses, mais qui resteront à l'écart. Déjà d'ailleurs, la caissière est presque toujours une femme, sans formation, professionnelle, avec des horaires décalés, fluctuants, un emploi partiel et un petit salaire. À elle seule, les caissières représentent un tiers de l'effectif d'une grande surface. La ligne de caisse est une ligne de démarcation entre l'intérieur et l'extérieur du magasin. Aussi, quand les taux de turnover, donc de tournus du personnel, s'approche des 25 jusqu'à même 50%, même parfois dans des cas extrêmes à Paris autour des 100%, c'est la relation avec le client qui est déficiente et qui irait reprocher aux grandes surfaces de ne pas investir dans la formation d'une main d'œuvre qui s'en va si facilement. Pourtant, à écouter les directeurs des entreprises, la tendance actuelle serait plutôt à la qualification et à la stabilisation des employés et à une meilleure intégration dans l'entreprise. Certains groupes cherchent ainsi à qualifier pied le poste de caissière. Dans certains magasins de l'Alsacienne, du supermarché, on tente de mettre en place une rotation entre les caissières et les autres salariés de l'hypermarché, boucher ou fromager excepté. Tous s'appelant désormais agent commercial. En test actuellement, cette formule vise à introduire un peu de variété dans le travail des uns et des autres, mais aussi à permettre une meilleure organisation des activités quotidiennes. Chez Continent, on réfléchit à des critères d'évaluation du travail des employés pour les associer davantage au projet de l'entreprise. Mais ce n'est pas simple pour les caissières. Les critères d'évaluation du travail déjà utilisés pour le reste du personnel des magasins sont difficiles à mettre en place pour elles. Comment évaluer objectivement la qualité de l'accueil des clients, par exemple? La ligne des caisses est un monde à part dans les magasins. Amnesty dénonce le viol devenu une véritable tactique militaire. Amnesty International a appelé les gouvernements à mettre un terme à l'une des violations des droits les plus avilissantes infligées aux femmes, qui sont le viol et les mauvais traitements sexuels perpétrés par les soldats, policiers ou gardiens de prison. Quand le violeur est un agent du gouvernement, ce viol est une torture et l'État en est responsable, indique l'Organisation de défense des droits de l'homme. Dans de nombreux cas où existe une opposition armée, le viol est devenu une tactique militaire dans les opérations anti-insurrectionnelles utilisées pour intimider les femmes, toujours selon ce rapport. Dans certains cas, les femmes sont violées ou maltraitées non en raison de leur engagement politique, mais simplement pour les punir d'être des proches de ceux recherchés par les autorités. En Suisse, le Conseil national refuse l'idée des quotas. Le Conseil national a refusé d'imposer une moitié de femmes à la Chambre haute. Ce n'est donc pas demain la veille que le Conseil des États sera supprimé ou composé d'une moitié de femmes. Le Conseil national a en effet clairement rejeté plusieurs initiatives parlementaires allant dans ce sens. Mesdames Aigli, Combi, Chevala et Gobet et quelques autres, vous pouvez vous racheter des pantoufles, restez à la maison. Votre mari a voté contre les quotas des femmes au Parlement. La procédure nominale n'a rien entamé de cette malassurance. Non, un point, c'est tout. Donc, l'initiative parlementaire davantage de députés au Parlement, qui était donc d'imposer un quota pour qu'il y ait autant de femmes, que le nombre de femmes ne dépasse pas 60%, tout cela a été refusé. Le chiffre aurait singulièrement amélioré la situation féminine des quelques 15% des femmes parlementaires aujourd'hui. On aurait dû donc passer à 40%. L'initiative n'a donc pas passé la rampe. Les femmes étaient d'ailleurs très divisées à ce propos. Si Menga Danouzer, socialiste, était favorable à l'idée en disant « Messieurs, vous ne manquez jamais une occasion de dire du bien des femmes, c'est de l'hypocrisie, aujourd'hui vous voterez en fonction du pouvoir, de peur d'en perdre un autre pauvre profit. » Quant aux mais certaines femmes, elles étaient plutôt critiques, Geneviève Aubry, mais on ne s'étonne pas, on connaît sa couleur politique, pour ne pas dire qu'elle est d'extrême droite, qui s'est écriée « Et instaurer des quotas serait antidémocratique. » Ce n'est pas avec cela qu'on changera les mentalités. On se demande avec quoi ce sera. C'est la libérale Suzette Sandoz vaudoise qui est allée le plus loin en proposant une version loufoque de l'article constitutionnel sur l'égalité, en disant alinéa 1, toute personne qui n'est pas du même sexe qu'une autre doit y remédier dans les meilleurs délais. Alinéa 2, les cantons sont chargés de l'exécution. C'est dire comment on prend au sérieux, même chez les femmes, ce genre de problème considéré vraiment très peu important. À tel point que l'UDC Bernard Horbasser, à la fin du vote, s'est écrié, on a friser l'opération. Un peu plus, on devait tous se transformer en femme. Le pauvre, ce serait peut-être mieux quand même. Toujours en Suisse, arrivée du préservatif féminin, le Femidon, on en a tant parlé, est sur le marché. Maintenant, on peut l'acheter. Alors, les avis sont partagés. Les parmi les utilisatrices comme parmi les féministes. Pour les utilisatrices, certaines trouvent que c'est très dérangeant, que ça fait du bruit, qu'on dirait qu'on a un sac poubelle dans le vagin. D'autres, au contraire, sont très contentes. Quant aux féministes, elles sont aussi partagées. Pour certaines, enfin, il existe pour les femmes une manière de se protéger elles et elles-mêmes contre le sida. Pour d'autres, au contraire, dénoncent le fait que pour une fois encore, c'est aux femmes de se responsabiliser à la fois pour la contraception et maintenant pour ne pas véhiculer ou attraper la maladie. À ce propos, le Nouveau Quotidien fait une bourde magnifique. Dans une enquête, il nous dit qu'il s'est livré à une enquête auprès des testeurs expérimentés qui tous déplorent, etc., etc. Vous avez compris, c'était tous des femmes. En effet, pour terminer ce chapitre, un seul consensus, le prix du préservatif à 3 francs le coût, ça devient un peu cher. Il faudra se resserrer en cas de crise. À Genève, un mari violent reste en prison. Il a défiguré sa première femme, il a tué sauvagement sa deuxième épouse et il bat la troisième à tel point qu'elle a dû aller à l'hôpital. La chambre d'accusation a donc maintenu sa détention. Mais le cas du couple n'est malheureusement pas exceptionnel. Selon le Bureau genevois d'égalité et des droits entre femmes et hommes, 10% des femmes sont victimes de violences conjugales. C'est rarement d'ailleurs l'alcool qui est à l'origine de ce fléau, précise-t-on à l'association Solidarité Femmes. Les maris violents sont dans la plupart des cas des maris jaloux. Sujet tabou, la violence conjugale est souvent ressentie comme une honte pour les victimes qui hésitent à déposer plainte. Celles qui franchissent ce pas se retractent souvent, alors que justement il faut utiliser la loi qui pénalise la violence conjugale au même titre que tout autre type de violence, les peines encourues pouvant aller de 3 à 10 ans d'emprisonnement. Toujours au chapitre des violences, une enquête outre-Sarine nous révèle des chiffres très très bizarres. Les hommes, d'après cette enquête, seraient plus nombreux à être battus par des femmes qu'inversement, selon un sondage donc publié par le magazine féminin Annabelle. 817 personnes adultes ont été interrogées. 19% des hommes ont indiqué avoir reçu des coups d'une femme contre 13% des femmes qui ont avoué avoir été frappées par un homme. Bizarre, bizarre. Les hommes et les femmes auraient-ils peut-être une autre conception de la violence, les femmes attendant souvent d'arriver à l'hôpital avant d'admettre d'être battues, alors que les hommes, peut-être, sont plus douillets. Toujours en Suisse, un ancien officier choisit d'être une femme. Lorsqu'elle raconte son histoire, Anne Daphné, directrice de l'école des cadres de Lausanne, rayonne. En l'appelant Madame, quelques minutes auparavant, le président du tribunal civil de Lausanne a virtuellement entériné son changement de sexe. Anne Daphné s'appelait avant Jean-Michel, personnalité très connue, en particulier dans les milieux militaires. Eh bien, après les Jeux Olympiques, c'est maintenant à l'armée de devoir introduire des tests chromosomiques pour toutes les jeunes recrues. Car, oh, quelle horreur si c'était une femme qui devenait soldat. Après Lausanne, l'Université de Genève a nommé sa déléguée aux questions féminines. Il s'agit de Anne-Lise Ed-Konig, qui dirige le département d'histoire économique de l'Université de Genève et fait partie de la Fédération internationale sur l'histoire des femmes. C'était donc la personne toute trouvée pour s'occuper des femmes dans l'université. Elle est la déléguée du rectorat aux questions féminines, un poste qui vient d'être créé en application de la nouvelle loi sur l'université. À Genève, les professeurs femmes ordinaires représentent 5% des effectifs. C'est loin d'être assez et chaque faculté a maintenant la mission de veiller, à qualification égale bien sûr, à favoriser les femmes sous-représentées lorsqu'un poste sera repourvu. Annelise Ed-Koenig aura un droit de regard sur ces procédures de nomination. Sa mission consistera aussi à mettre sur pied une structure d'enseignement et de recherche consacrée aux questions féminines dès la rentrée prochaine. Toujours en Suisse, l'Organisation pour la cause des femmes, OFRA, s'est prononcée contre les manipulations génétiques et exige un arrêt immédiat de la recherche dans ce domaine. Cette voie prise par la science est une déclaration de guerre à la femme et à la nature. L'OFRA dit non également au contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative du Béobart sur les manipulations génétiques et la reproduction assistée. Les femmes sont particulièrement touchées par ce sujet délicat. Elles risquent à terme d'être contrôlées et exploitées, selon l'OFRA. Roselyne Crosa, première femme dans un exécutif cantonal, mise à la porte, si on peut dire, puisqu'elle n'a pas reporté les élections, elle timbre aujourd'hui au chômage. L'ancienne conseillère d'État fribourgeoise, Roselyne Crosa, est au chômage depuis le 1er janvier, à la suite de sa non-réélection de l'automne dernier, et elle va timbrer donc à l'Office du travail de Fribourg. La première femme à avoir été élue dans un exécutif cantonal romand, qui touche pourtant une pension correspondant à 30% de son ultime salaire, explique cette démarche par ses engagements financiers fixés selon son ancienne situation. « Je suis cependant actuellement à la recherche d'un nouvel emploi », reconnaît Roselyne Crosa. Et pour terminer, notre chapeau du cochon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas donné celui-là. Hein? Et alors vraiment, c'est normal que nous avons attendu, parce que nous avons vraiment une personnalité de choix dans la personne justement de Boris Eltsine. Vous savez qu'il paraît que c'est un gros cochon, c'est un gros cochon, exactement, et qu'il taquine la bouteille. « Non, je ne suis pas ivrogne », a-t-il dit. Il n'apprécie absolument pas les rumeurs qui le dépeignent sous les traits d'un alcoolique. En tout cas, il a affirmé qu'il n'était pas comme Gorbatchev, c'est presque PD, oui, parce que celui-là, vous savez, il prenait conseil auprès de son épouse pour les questions de la politique. Ben lui, il le frappe pas. Il tient donc à se distinguer de Mikhail Gorbatchev, qui avait choqué les secteurs traditionnels de la société russe en affirmant ouvertement chercher conseil auprès de son épouse Raïssa. Monsieur Eltsine n'hésite pas à confier que son épouse Naina ne joue pas pour lui le rôle d'éminence grise. Bien plus, il n'aborde pas les questions politiques avec elle. Dans notre famille, c'est moi le patron. Il ajoute cependant, bien sûr, ma femme a ses propres points de vue, elle est libre. Oh, comme c'est charmant. Allez, un chapeau pour Eltsine, c'est le premier, c'est sûrement pas le dernier. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. La Madeleine va bientôt arriver et la Marjolaine aussi avec un long, long memento. À très bientôt. Toto.
Thank you.